Donc, vous n'avez pas ces poches de me skipper au soir, un matin. Mais, vous savez, lorsqu'on apporte la parole comme ça, on se demande toujours combien de points je vais mettre dans mon message. Année 7, un matin, c'est pour le spécial. Et, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'important, très important. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce message. C'est que, on l'a vu ce matin, on est oublié. Et en fouillant ici et là, j'ai essayé de trouver des choses certaines et des choses incertaines. Est-ce qu'il y en a qui sont incertains quelque part, des fois, sur des affaires? Êtes-vous certain? C'est peut-être moi qui ai été visé avec ça, mais on nous donne tellement de choses, on entend tellement de choses. La fake news, hein, le nouveau terme qui est sorti des États-Unis avec Trump. Fake news. Mais c'est un terme qui était sorti, hein? C'est un terme qui était sorti. Il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, moi, j'ai pensé ce matin d'essayer d'oublier toutes ces affaires-là et d'y aller avec les certitudes de la parole. J'en ai choisi 7. Il y en a plus. J'en ai choisi 7 parce que je crois que c'est 7 très importants et qu'on les trouve dans le même chapitre, dans 1 Jean, chapitre 5. Jean va nous parler de la même chose pendant 3 cycles, le troisième cycle qui part du chapitre 5, versets 1 à 21. Et il va nous mentionner 7 certitudes comme enfants de Dieu. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, ça va être difficile pour vous ce matin, parce que c'est comme des secrets de famille. D'ailleurs, j'ai même pensé à appeler mon message ce matin « Les secrets de famille », 7 secrets de famille. Mais on va y aller avec les certitudes. Pourquoi les certitudes? Parce que qui dans sa vie n'a jamais posé ces questions? Hein? Où, qui, quand, pourquoi, comment, etc., etc. Il y a de l'incertitude partout, même en météo. Hein? Il annonce la météo, puis ça serait supposé d'être de même. Il y a de l'incertitude avec la météo, des incertitudes avec les routes. Il y a toutes sortes d'incertitudes. Puis je restais surpris de découvrir aussi que Heisenberg a même découvert une formule scientifique en mécanique quantique, le principe d'incertitude. Même dans cette science-là, il y a de l'incertitude. Et je n'expliquerai pas tout le système, mais c'est intéressant de voir ça. Il y a des livres qui sont écrits. L'incertitude dans les théories économiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la bourse ici? Là, je ne sais pas. L'incertitude économique, hein, c'est quelque chose qu'on vit tous, hein, n'est-ce pas? Savez-vous que votre panier d'épicerie est supposé de monter cette année? Hein, de 400 $, je crois, pour l'année. L'incertitude, mais c'est pas sûr. Ça se peut. L'incertitude. Il y a aussi l'incertitude qu'on peut appeler une incertitude qui est juridique, une incertitude scientifique. C'est des hypothèses. On a telle hypothèse. Il y a aussi des incertitudes dans les soins de la personne. Des incertitudes. Et quand j'ai regardé ces choses-là, je me suis dit, waouh, les certitudes, il y en a tellement! Il y a un paquet d'incertitudes, mais là, je n'ai pas trop le temps d'aller dans ces incertitudes. C'est plein. C'est plein, plein, plein. Incertitudes. On a beaucoup de théories. On fait des synthèses. Mais la certitude n'est pas là. Et c'est, à fin de compte, ça suscite la curiosité, n'est-ce pas? Je suis incertain comment ça fonctionne, donc je vais l'étudier plus profondément. C'est plein d'incertitudes. Et c'est pour ça que j'ai choisi justement ce titre-là. 7 certitudes de la parole de Dieu. Ça s'adresse à des chrétiens, ça s'adresse à des enfants de Dieu, comme 1 Jean. Jean adresse aux enfants de Dieu des vérités certaines. Vous savez, la parole est claire. Le ciel et la terre passeront. Pourquoi ils vont passer le ciel et la terre? Parce que Dieu va créer un jour un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mais mes paroles ne passeront point. Dans les synoptiques, on voit ça 3 fois, cette affirmation-là. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, c'est important pour nous, ce matin, de réfléchir ensemble sur ces sept certitudes que nous avons dans la parole. Parce que la certitude est mise à l'épreuve aujourd'hui. Il n'y a plus rien de 100% vrai. On est dans un monde où ce que tu as ta vérité, il y a la vérité de l'autre. Il y a la manière de voir de un, il y a la manière de voir de l'autre. Et il y a de moins en moins de vérité. Parce que la vérité, dans le fond, c'est quelque chose qui dépend de vous. Mais dans la parole, la vérité dépend de ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour cela qu'il faut s'ancrer. La nouvelle année qui s'en vient. Et même réfléchir sur l'année qui vient de passer. Est-ce que ces certitudes m'ont accompagné, m'ont habité, vont m'habiter, vont m'accompagner pour 2019? Alors, dans ces sept certitudes, rapidement, il y a certaines certitudes, je vais aller assez rapidement parce que il y en a deux surtout que j'aimerais élaborer un peu plus, là. Mais la première certitude, c'est celle-ci. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Oh, ben, Michel, moi, je sais ça, voyons donc. Dans 1 Jean 5,13, il est écrit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est une certitude. Ce n'est pas « peut-être vous allez l'avoir, peut-être un jour vous allez l'avoir, vous allez le savoir peut-être une autre fois, juste avant de mourir, vous allez le savoir. » Ce n'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit dans la parole, cette première certitude d'un enfant de Dieu, c'est que nous avons la vie éternelle, qui est une vie de longueur, mais aussi une vie de qualité. Il ne faut pas oublier la signification du mot éternel. Ce n'est pas seulement la longueur, c'est une qualité de vie que nous avons, selon Dieu. C'est la première certitude qui doit nous accompagner. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La certitude, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Et Jean va répéter ces sept certitudes qui a passé tous les autres chapitres à répéter. Il répète de plusieurs manières. Il va redire la même chose. Nous avons la vie éternelle. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Deuxième certitude que nous avons aussi, et nous voyons cela dans la parole, nous savons que Dieu écoute et répond aux prières. Vous savez ça? Regardez bien. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Courte réflexion là-dessus. Vous savez, lorsqu'on pense à cette vie de requête et d'exaucement que nous vivons, est-ce que vous pouvez penser à un exaucement de l'année passée que vous avez eu dans vos prières? Est-ce que vous pouvez penser à un sujet qui est terriblement personnel? Peut-être que vous n'avez même pas publiquement dit à personne, « Je prie pour cela, priez pour cela, priez pour moi, priez pour cela. » Est-ce que vous pouvez réaliser lorsque vous regardez en arrière, les réponses de Dieu. Dieu répond toujours aux prières. Il dit oui, il dit non, puis il dit attends. Toujours comme ça. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Dieu est vivant, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est juste, Dieu est saint. Dieu est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté, il est gracieux, il est patient, il est bienveillant, il est fidèle, il est prévenant, il est compétent. Et lorsqu'il dit non, est-ce que vous l'acceptez le nom de Dieu? Lorsque Dieu dit « attends », est-ce qu'on accepte quand Dieu dit « attends » On n'a pas de misère à accepter les « oui », hein? Quand on voit devant nos yeux la grâce de Dieu qui s'accomplit, des choses que juste Dieu est capable de faire, et c'est pour ça qu'il faut saisir cette certitude de qui est Dieu lorsqu'on prie, lorsqu'on arrive devant notre liste de requêtes. Il faut savoir que Dieu est vivant. Ses attributs moraux, non moraux de Dieu nous assurent que Dieu écoute. Et c'est ce que Jean veut nous dire. Jean dit, « Savez-vous qui vous écoute? Est-ce que vous réalisez celui qui vous écoute lorsque vous priez? Acceptez la réponse. Soyez pas marabout après Dieu. Soyez pas désespérés. Parce qu'on a un Dieu extraordinaire. On l'a chanté ce matin de plusieurs manières. Troisième. On va élaborer un peu plus sur le troisième avec le temps que j'ai. Nous savons que le croyant n'est plus esclave du péché. Et ça, on voit ça dans 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et ça, nous savons. Lorsqu'on est né de nouveau, il y a une différence entre avant puis après. Il y a une différence, et puis on peut lire aussi dans le même texte, dans 1 Jean 3, 6, un autre texte, « Quiconque demeure en lui ne pêche point, il ne continue pas à pécher. Quiconque pêche s'adonne au péché, ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. » Même texte avec parole vivante qui est traduit différemment. « Par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris. » Vous savez que le combat chrétien, la vie chrétienne pour nous, lorsqu'on vient au Seigneur, c'est d'obéissance en obéissance. On se dit à nous autres mêmes, notre vie chrétienne, ça va être ça. Moi, je vais être rempli d'amour. Romains 5, 5, hein, le Saint-Esprit a déversé l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et moi, là, je suis rempli d'amour, là, puis j'ai le Saint-Esprit, puis je marche dans l'amour d'obéissance en obéissance. C'est beau, hein? C'est-tu réel? Non. Parce qu'il faut savoir que Jean nous avertit que si nous disons qu'on n'a pas de péché, on fait Dieu menteur. Donc, la vraie vie chrétienne est une marche d'obéissance et de désobéissance en même temps jusqu'à la rédemption de nos corps, Romains 8, 23, lorsqu'on va être sauvé de la présence même du péché. Mais en attendant, nous sommes en train de vivre en obéissant et en désobéissant à Dieu. Si vous pensez que l'année passée, vous n'avez jamais désobéi à Dieu, réfléchissez encore. Parce que 1 Jean 1, 9 nous dit, si nous confessons, lorsque nous confessons, le mot confesser, littéralement, veut dire, si nous disons comme Dieu dit, si on est d'accord avec ce que Dieu appelle péché. Parce que le mot péché, en fin de compte, c'est manquer le but pour lequel il nous a été créé. Développer des relations tout croche et tordue avec nos semblables. Transgresser la loi de Dieu et se bâtir une vie inquiète, troublée et agitée. Et c'est pour cela que notre vie, en fin de compte, fait en sorte que lorsque nous disons comme Dieu en ce qui concerne nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Est-ce que vous savez quoi faire avec le péché? Lorsque vous péchez, lorsque vous manquez le but pour lequel Dieu vous a créé, savez-vous quoi faire avec? Le nier? La regarder à pleine face et dire, « Hey, Dieu ne pourrait pas approuver ça. » Puis on le sait dans notre conscience, n'est-ce pas? Parce qu'on est toujours un système d'alarme qui s'appelle notre conscience pour les chrétiens. Si vous n'avez pas, c'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Un système d'alarme qui nous dit, « c'est pas correct, ça. C'est pas de Dieu, ça. » Et ce système d'alarme qui nous parle, le mot « conscience » veut dire la connaissance qui nous accompagne. On le sait dans le fond. On le sait dans le fond. Et certains commentateurs vont vous dire ceci en ce qui concerne. Vous savez, ce point est très, terriblement important de comprendre que oui, la vraie vie, c'est l'obéissance et la désobéissance. On ne court pas après la désobéissance, c'est sûr. Mais lorsque ça arrive, on sait quoi faire avec. Et William Barclay nous dit, « Jean exige non une vie perfectionniste, mais une vie dans laquelle le péché est une exception et non une règle, une manière de vivre. Un chrétien ne se lève pas le matin en disant, je vais faire 50 péchés d'ici au break à 10 heures. À partir de 10 heures, je m'en fais trois autres. Puis à soir, je garde ça pour à soir. À soir, j'en fais au moins une centaine. À soir, là, il faut que je mette le paquet à soir. Ce n'est pas la mentalité chrétienne, ça. Êtes-vous d'accord? On se lève le matin et on dit quoi? Seigneur, prends cette journée, elle t'appartient. Donne-moi la force de résister à la tentation qui vient cogner à ma porte. Donne-moi la grâce, Seigneur Dieu, de passer outre, de fuir le péché qui si facilement m'enveloppe. C'est ça, c'est cette mentalité-là qu'on a comme chrétien. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est capable de définir le péché comme faux. Aujourd'hui, c'est un mot que le monde ridiculise, le mot péché. Je viens de vous donner les quatre définitions tout à l'heure du mot péché en hébreu. Mais il faut savoir, mes amis, que nous, on a cette certitude que Dieu entend nos prières. On a cette certitude qu'on n'est pas de ceux qui vivent dans le péché, comme si Dieu n'existerait pas, et qu'on dit à Dieu, je vais tricoter ma vie à ma manière, Dieu, tasse-toi de là, je sais ce que je veux, puis je sais où est-ce que je m'en vais. On n'est pas caractérisé par un style de vie qui déshonore Dieu. Est-ce que c'est clair? Ce point-là, c'est important. Hein? Si c'est pas trop, parce que j'ai pas trop de temps, mais si c'est pas trop clair, là, venez me voir après. On va en parler ensemble. La deuxième citation, c'est F.F. Bruce qui dit ceci. Péché, c'est contre nature pour un enfant de Dieu. Ceux qui pratiquent le péché nient la présence de la nature divine en lui à cause de la semence de Dieu. Derrière cette citation-là, F.F. Bruce veut nous dire, en fin de compte, écoute, comme c'était avant que tu acceptes le Seigneur, comme c'était naturel pour toi de vivre comme tu voulais, puis tu t'en foutais du péché, puis tu ne savais même pas, puis tu ne voulais pas le savoir non plus, tu vivais à ta manière. Moi, je vis à ma manière, ça finit là. Mais maintenant, tu es au Seigneur, puis la nature divine est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Tu as un autre poussé vers l'autre bord qui dit, « Wow, je devrais marcher plutôt comme cela, n'est-ce pas? » Autrefois, le Saint-Saëns à la table, je l'aurais volé. Maintenant, je le laisse là. Voyez-vous la différence? Et ça, c'est tous des choix qu'on fait. Une deuxième citation, péché, ok, je viens de vous lire cela, ok, excusez. Ok, troisième citation, c'est John Stott qui est bon. Je trouve ça bon parce qu'il parle de le fait qu'une pression interne, il émane une forte pression interne vers la sainteté. Puis, comprenez-moi comme il faut, là, le mot sainteté veut dire mise à part, ne veut pas dire sans péché dans ce contexte-là. Le mot sainteté, lorsqu'il est attribué à Dieu, ça veut dire sans péché. Il n'y a rien que Dieu qui est sans péché, Jésus, qui est Jésus, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle d'un chrétien qui est saint, ça veut dire qu'il est mis à part pour Dieu. C'est la signification du mot. Mis à part pour Dieu. Il émane une forte pression interne vers la sainteté, vers le fait que nous sommes mis à part pour Dieu. Donc, c'est une certitude que nous appartenons à Dieu et nous marchons pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la troisième certitude. La quatrième. Nous savons que Satan ne peut pas le détruire. Important. Ça, c'est 1 Jean 5, 18. Dans le sommeur, car le Fils de Dieu le protège, ainsi le diable ne peut rien contre lui. Mais quand eux disaient, si le diable pouvait nous détruire, ça fait longtemps qu'on serait détruit. Mais il ne peut pas. Donnez pas plus de puissance au bras au diable qu'il en a, mes amis. 1 Jean, on peut le lire ici, nous sommes du reste qu'aucun enfant de Dieu, nous savons qu'aucun enfant du reste, qu'aucun enfant de Dieu n'est de nouveau. Ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Ainsi, le diable n'a-t-il aucune prise sur lui. Et mes amis, c'est des vérités, ça, qui est merveilleux. Une certitude. Arrêtez de blâmer le diable. La chair est là en masse. Cassez-vous pas la tête. Le diable ne peut pas nous détruire. Comme qu'il ne pouvait pas détruire Job. Dieu a permis à Job qu'il y ait certaines épreuves. Il a mis un cercle de protection autour de Job et Satan ne pouvait pas aller plus loin que Dieu permettait. Puis Satan n'est pas omniprésent, omnipuissant, omniscient. C'est un mauvais ange en rébellion contre Dieu. Puis il a décidé de tricoter le système de ce monde comme Dieu veut le voir. On va le voir un peu plus tard d'ailleurs. C'est une certitude merveilleuse. Cette quatrième certitude, c'est que et je pourrais vous raconter des histoires, là, comment est-ce que Dieu nous protège de toutes ces choses occultes-là. Là. Mais ce matin, pour ce matin, là, c'est une vérité qu'on doit, une certitude qu'on doit avoir. Satan ne peut pas me détruire. Il veut nous tenter, il veut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas nous détruire. La cinquième, et Jean va en parler souvent de cela dans sa première épître, « Nous savons que le monde entier gît dans le malin et que nous sommes de Dieu. » Wow! Je vais le lire encore, regardez bien. « Nous savons, c'est une certitude, que le monde entier gît dans le malin et que nous sommes de Dieu. » Il y a la lumière et les ténèbres. Il y a les enfants de Dieu et les enfants qui appartiennent à personne, qu'on peut appeler les enfants, qui sont errants, que le diable veut influencer. Le diable ne possède aucune arme, dans le sens que c'est à lui, c'est à moi, je la garde. Il peut influencer toutes les âmes, mais il ne peut pas les posséder. Mais il les influence. Le monde entier est sous la puissance du malin. Pour Jean, il voit un système. Et on le voit dans Jean 2, 12 à 17. Pour lui, il voit un système en trois couches, comme des poupées russes, là, une dans l'autre. Là. Il y a premièrement le diable et ses mauvais anges qui sont là pour détruire l'enfant de Dieu puis empêcher les non-croyants de venir au pied de la croix et être sauvés. Il y a Jean ce qu'il appelle le système de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est ça le monde, c'est pas les êtres humains. Jean ici ne nous parle pas des êtres humains, il nous parle du système de ce monde qui est tricoté pour nous enfarger dans nos vies chrétiennes, pour détruire nos vies chrétiennes si possible, avec des tentations, mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il va utiliser trois choses. Il va utiliser la chair pour entrer dans notre sac de protection. Il va utiliser les yeux, l'orgueil de la vie, et toutes ces choses-là vont être là pour nous aider, pour nous aider à aller dans le péché. Nous aider à aller dans le péché, ça va être facile. Ah, ça va être facile. Voyez-vous, tout le système est là dans notre vie chrétienne, lorsqu'on est en train de marcher, on a encore une nature pécheresse en nous, n'est-ce pas? On désobéit à Dieu. Et Satan a tricoté le système pour nous paralyser comme chrétiens, nous empêcher de vivre pour lui. Et Jean va exposer, justement, va démontrer ce système qui existe pour vous dire, à vous, chrétiens, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Vous allez définir ça, vous autres, le monde. Le monde va vous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Le dernier philosophe qui vient de sortir va vous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Le dernier psychiatre, comme je parle souvent de Doc Mayou, là, mais ou Jeannette Bertrand, mais il y en a bien du monde qui veulent nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, n'est-ce pas? C'est bien telle chose, puis c'est rendu que être chrétien, c'est presque mal aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu une annonce ou un film de Noël qui ont parlé de Jésus à la TV? J'en ai écouté deux, trois avec Diane, juste pour voir si c'est possible. Je n'ai pas vu un. Je n'ai pas vu un qui parlait de la naissance de Jésus. C'est rare, mais c'est rendu presque mal de parler de Jésus, de plus en plus. Parce que le système est tricoté comme cela. Ça, ces flèches-là, vous voyez, je vais vous montrer qu'il vise là. Il a tricoté le système, puis il fait appel à notre manière de vivre, à notre définition de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il fait appel à la chair. Fait appel à la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est un terme extrêmement merveilleux qui nous révèle l'orgueil qu'on a. Parce que l'orgueil de la vie, c'est de dire à Dieu, « Dieu, tasse-toi de là, je vais vivre ma vie comme je veux. Je vais faire ma vie comme je veux. » La convoitise des yeux, c'est la convoitise du char, du skidou, du chat, de la femme, du voisin. La convoitise de la chair. La chair, c'est des appétits humains, hein? Les appétits humains. Laissez-moi vous dire quelque chose, là ces choses-là sont mises en action, là. Ça peut détruire une vie chrétienne rapidement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça peut détruire nos vies chrétiennes. Et Jean veut nous avertir dans tout cela. Je vais aller à la sixième ici. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est une certitude. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous allez dire, on sait ça que Jésus est venu, on a eu Noël. Hein? Oui, nous, dans notre petite bulle évangélique, on a ça, là. On le sait, ça, nous autres. Puis il faut garder ça en mémoire, parce qu'on oublie. Vous savez, c'est un fait. Oda veut dire, c'est un fait, on le sait, c'est pas contesté. Parce que celui qui nous affirme ces choses-là, c'est un témoin oculaire, qui est l'apôtre Jean, qui va nous dire, moi je l'ai entendu Jésus, moi je l'ai vu, moi je l'ai contemplé, et moi j'y ai touché Jésus. Donc il est vrai Jésus, c'est pas une légende, c'est pas quelqu'un qui a été inventé par des théologiens au 15e siècle. Jésus a vraiment existé. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est vérité fondamentale du témoin oculaire qui a entendu, qui a vu, qui a contemplé, qui a touché Jésus, qui était la parole de vie. Et ces six affirmations, ces six certitudes nous amènent à la grande certitude. Puis je vais vous montrer la différence entre les six et le sept. Nous connaissons, là il ne prend pas le mot « oda », il prend le mot « genesco » qui parle de « j'ai expérimenté ». C'est plus qu'une connaissance intellectuelle. Jean est en train de nous dire, vous savez des choses extraordinaires, c'est des faits, c'est des certitudes. Mais le septième, il n'emploie pas « oda », il emploie ce mot « genesco » qui veut dire « j'ai expérimenté Jésus ». Jésus-Christ est le véritable Dieu et la vie éternelle. Et c'est important de réaliser que ces deux mots viennent compléter cette manière de regarder et de voir. Donc, nous n'avons pas besoin d'idole. Il va terminer comme cela. Nous n'avons pas besoin d'idole. Nous savons ces choses. Nous avons expérimenté Jésus-Christ. Donc, on n'a pas besoin d'idole. Quelques mots pour les idoles. Vous savez, une idole, c'est tout ce qui remplace Dieu. Tout ce qui va prendre la place de Dieu dans nos vies. Tout ce qu'on va épouser et adopter selon la chair, selon le système de ce monde, la manière de voir la vie, la valeur de la vie, nos valeurs judéo-chrétiennes, nos valeurs de vivre pour Dieu. C'est important, frères et sœurs, de réaliser qu'on n'a pas besoin d'idole. On n'a pas besoin de remplacer Jésus-Christ par quelque chose de meilleur, parce qu'il est le meilleur. Maintenant, je vais vous montrer les sept choses qu'on vient de voir ensemble. C'est ça qui est important. Regardez, il prend, nous savons, c'est un fait qu'on a la vie éternelle. Nous savons que Dieu nous écoute et répond aux prières, c'est un fait. Vous croyez ça? Nous savons que le croyant n'est plus esclave du péché. On est libéré de l'esclavage du péché. On appartient à Dieu maintenant. Nous savons que Satan ne peut pas le détruire, le croyant, parce que Dieu, on est dans les mains de Dieu, puis Dieu va finir l'œuvre qui a commencé en nous. La cinquième chose, c'est nous savons que le monde entier gît dans le malin et que nous sommes de Dieu. Il faut être conscient de cette certitude que ce n'est pas le système de ce monde qui doit guider les valeurs de nos vies, mais c'est la parole de Dieu. Ça, c'est important. De toujours se rappeler de cela. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est un fait. Pour nous, c'est un fait. Et le septième, là, qui va en prendre Genesco, il va dire, nous connaissons Jésus-Christ. Hein? Nous connaissons Jésus-Christ qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. J'aimerais conclure par ceci, mes frères et sœurs. Jean, c'est un épître extraordinaire qui nous donne des outils pour vivre nos vies chrétiennes. il nous rappelle les choses importantes. Et c'est cette vérité, c'est cette certitude que Jean nous partage dans ce dernier chapitre, va nous accompagner pour 2019. Il y en a plein qui peuvent arriver vers vous et dire, « Qui que t'es, toi, pour dire que tu as la vie éternelle? Qui que t'es, toi, pour dire que tu vas au ciel? » Avez-vous déjà entendu ça? Les gens voient ça du mauvais œil lorsqu'on leur dit ça. Lorsqu'on dit aux gens, « Sais-tu que Dieu répond aux prières? » Voyons donc. « Toi et ton ami invisible. » Quelqu'un m'a dit, « Toi et ton ami invisible. » Ton ami invisible là, qui répond aux prières. Pas tout le monde qui croit à ça. Est-ce que vous, vous croyez le peuple de Dieu aux prières? C'est ça qui est important. Il faut savoir que ce que Dieu dit, c'est réel, c'est un fait. Nous l'avons expérimenté. Et puis, le troisième qui dit, c'est « Nous savons que le croyant n'est plus esclave du péché. » J'aimerais ça avoir beaucoup de temps pour parler là-dessus, mais dites-vous une affaire. L'esclavage du péché, savez-vous ce que c'est? C'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Il est esclave du péché. Quand on est de nouveau, on est transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière. On n'est plus des esclaves du péché. On est maintenant esclaves de Dieu. On marche pour la justice de Dieu. Oui, on fait encore des péchés, mais on sait quoi faire avec. On les confesse. Puis Dieu est fidèle et juste, nous pardonner, nous purifier de tout péché. On est mis à part pour Dieu dans ce monde pervers et corrompu. Nous savons que Satan ne peut pas le détruire, l'enfant de Dieu. Et quand j'ai examiné ça, je réalisais, en fin de compte, mes amis, que est-ce qu'on réalise la puissance qui vit en nous? Pas nous, on n'a pas de puissance en nous-mêmes. Est-ce qu'on réalise la puissance qui vit en nous? Tu sais, c'est comme ces histoires où ce que la personne ne sait pas la capacité qu'elle a. J'avais vu un... Ouais, c'est pas Wonder Woman, c'est l'autre, là, le super-héros, là. Il ne savait pas qu'il était Superman, là. T'sais. Il ne se rappelait plus de quel que c'était, Diane. Il y en a un qui ne se rappelait plus de ce qu'il était. Puis là, dans le film, il disait, « Oui, mais tu ne réalises pas qui t'es. Tu as une puissance en toi. » Là, il découvre qu'il est Superman, puis commence à voler dans les airs, puis saute. T'sais. Wow! Tu sais, je disais à moi-même, est-ce que comme chrétien, on sait qui nous sommes? Est-ce qu'on réalise la puissance qui agit en nous? Est-ce qu'on réalise le message que nous portons? C'est merveilleux, parce que Satan ne peut pas nous détruire. Puis, il faut réaliser aussi qu'on est d'une guerre spirituelle. La cinquième, qu'on pourrait dire certitude, c'est que le monde entier gît dans le malin, sous la puissance du malin, et nous sommes de Dieu. C'est que oui, il y a une guerre spirituelle qui existe. Une guerre spirituelle qui existe. Et l'enjeu de cette guerre, c'est les âmes. Et nous sommes dans cette guerre comme étant des soldats de Jésus-Christ en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le message de l'Évangile qui est très simple, comme on a vu ce matin, c'est simple. Si on dirait aux gens de monter des marches à genoux, ils le feraient peut-être, ça ne donnerait rien. Parce que c'est par la foi seule qu'on appartient à Christ. La foi seule dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le fait de dire, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ça, c'est le sixième-là, là, mes amis. Écoutez le monde parler alentour de vous qui ne connaît pas le Seigneur. Si Pierrette a dit un matin qu'elle a dit le mot Jésus dans les réunions de famille, moi, je n'ai même pas pu le dire. Les réunions de famille que j'ai eues, là, on n'a pas pu parler du Seigneur, pas en tout. Ils nous boycottaient quasiment. Ils ont même fait un party sans qu'on soit là. Voyez-vous? Dire que Jésus est venu aujourd'hui, c'est un drame à ceux qui sont alentour de nous. Hey, on a-tu tout un job en 2019 à faire, nous autres? Hein? Puis pourquoi qu'on va faire ce job-là? Parce que nous le connaissons. On l'a expérimenté, Jésus-Christ. J'ai toujours aimé l'histoire de cet homme qui était devant un athée dans une salle de conférence. Puis l'athée démolissait Dieu. Fait que le chrétien se lève la main, puis il commence à manger une pomme. Puis il dit à l'athée qui disait que Dieu n'existait pas, il dit, je veux te vous poser une question. Il dit, la pomme que je suis en train de manger, est-elle sucrée ou sûre? Il dit, je ne le sais pas. Il dit, c'est toi qui l'expérimente, ta pomme. Mais dit Dieu, c'est la même chose. Quand tu expérimentes Dieu, tu saisis Jésus-Christ, tu saisis la vie éternelle, tu saisis le but de la vie. Et on a cette puissance en nous, on a l'Évangile en nous qui est un flambeau. Puis ma prière pour chacun de nous en 2019, c'est de réfléchir ensemble, puis d'aller ensemble porter cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'on a expérimenté Jésus-Christ. On l'a expérimenté. Soyez pas surpris que les gens ne vous comprennent pas. Il faut être patient, il faut trouver les mots pour annoncer le Seigneur, puis il faut travailler fort là-dessus, parce qu'on a expérimenté Jésus-Christ, puis ces 6 certitudes nous accompagnent. C'est tout un défi, hein? Êtes-vous prêts pour 2019, vous autres? Je vous le dis, là, de plus en plus, ça va être dur de témoigner Jésus. Dans mon temps, dans les années 70, waouh, vous disiez ça, dans mon temps, je suis rendu vieux, hein? 70 ans. Dans mon temps, on disait, tu peux rentrer dans un autobus avec un Playboy, tu peux rentrer dans un autobus avec un dictionnaire, mais tu n'as pas le droit de rentrer dans un autobus avec une Bible. Tu passes pour un fou. Aujourd'hui, va t'asseoir au McDo avec une Bible, fais-toi connaître comme chrétien, puis tu vas passer pour un ridicule, un inintelligent. Voyez-vous, ça l'a augmenté d'une coche de ma vie. Que le Seigneur nous aide à chacun de nous à être des témoins pour lui, avec ses certitudes qui sont la base de notre vie chrétienne. C'est très simple, hein? C'est pas compliqué, ça, cette affaire-là. Là. Mais Jean nous les rappelle dans peu de versets, l'essence même de l'Évangile, l'essence même de la vie chrétienne. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour la joie que tu nous donnes de t'appartenir. Et Seigneur, on sait que 2019 s'en vient d'une manière rapide, comme toutes les autres années d'ailleurs. Mais on sait qu'on est plus proche de la fin qu'autrefois. On sait que tu reviens bientôt. Et en attendant, Seigneur, fais de chacun de nous ici les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons. Et donne-nous, Seigneur, par ta grâce, d'apporter cette bonne nouvelle, ces certitudes aux gens qui nous entourent. Et qu'on sait que c'est ton esprit qui convainc. Et utilise-nous, Seigneur, comme des outils entre tes mains, à la gloire de ton nom. Amen. Amen.